Non, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité, d'avoir invité la cardiologie, parce que, effectivement, comme le rappelait Marie-Pierre tout à l'heure, Servachef en septembre, Servachef septembre 2015, et puis avec ce qui était paru au mois de mai 2015 pour annoncer le surrisque, ça a été un coup de tonnerre. Et on s'est dit, est-ce que du coup, il n'y aura plus de collaboration entre les cardiologues et les somnologues suite à Servachef? Bien, je pense que c'est le contraire, j'en suis convaincu. Je pense que c'est l'expérience de tous mes collègues. Et donc, en tout cas, merci de m'avoir invité. Alors, je vais parler d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réservée. Quand on parle d'insuffisance cardiaque, hein, actuellement, il y a trois modalités. Il y a l'insuffisance cardiaque systolique, dont a parlé Marie-Pierre. Il y a l'insuffisance cardiaque dite diastolique. Et il y a l'insuffisance cardiaque aiguë. Et nos recommandations et les raisonnements sont vraiment de plus en plus centrés sur ces trois aspects. Bien sûr, ils sont liés, mais il faut voir que les niveaux de preuve, les niveaux de traitement et les recommandations doivent chaque fois s'intégrer dans ces trois aspects. Alors, qu'est-ce que c'est que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée? Eh bien, d'abord, elle est tout aussi fréquente et tout aussi grave que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. On pense que c'est 1% de la population, 600 000 en France. C'est une caractéristique du sujet âgé. Elle est encore mal connue, sous-diagnostiquée et sans traitement de fond efficace. Et c'est ce que je veux vous montrer. Donc, la définition. Quand vous regardez la définition, il n'y a rien de particulier, hein, effectivement. Il faut qu'il y ait un syndrome clinique d'insuffisance cardiaque avec, on aime bien, une réponse au traitement diurétique. Il faut donc qu'il y ait une fraction d'éjection qui soit préservée. Hein, et il faut des signes biologiques au niveau des peptides qui, donc, contribuent à la définition. Et on élimine tout un tas d'autres causes de dyspnée. Ou de cardiopathie. Et si on prend les toutes dernières recommandations, donc de 2016, qui sont parues en mai, eh bien, on voit que ça n'a pas changé. Hein, on parle de symptômes et de signes, hein, donc les éléments fonctionnels et les éléments cliniques d'insuffisance cardiaque. Et alors, vous voyez qu'il y a une nuance qui est apparue en mai, c'est la fraction d'éjection préservée. Est définie par deux catégories, plus de 50% et entre 40 et 49%. Donc il y a une espèce de troisième zone qui est apparue, on va en parler. Je vous rappelle que Servachef, c'est 45%. Vous avez une définition pour les peptides natriurétiques, donc 35 ou 125 quand il s'agit du NT ou du BNT, du BNP. Et puis il faut qu'il y ait des évidences d'altération fonctionnelle ou structurelle au niveau cardiaque. Donc, ce sont tous ces éléments qui caractérisent l'insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection préservée. Hein. Donc, la fraction d'éjection est définie par 50% et on veut soit une dilatation de l'oreillette gauche ou une hypertrophie du ventricule gauche. Donc, on s'intéresse et à l'oreillette et au ventricule. Soit alors, de façon plus fine, des signes échographiques d'atteinte diastolique. Et puis, entre la fraction d'éjection altérée, définie par 40%, et la fraction d'éjection préservée, définie par 50%, est apparue une zone grise qui s'appelle modérément réduite, et entre 40 et 49%. Je pense que ça ne doit pas nous troubler plus qu'autre chose, et c'est pour ça que restons simples, malgré cette définition de 2016 qui est apparue en mai 2016, hein, restons simples dans les messages que l'on donne, c'est 45% qui concerne CRHF et c'est 45% qui restera utile pour tout le monde. Pourquoi? Et j'aime beaucoup cette plaque, elle est têtue, elle est sortie d'un registre européen sur l'insuffisance cardiaque. Et donc, vous avez tous les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque, avec le pourcentage des patients, hein, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Et vous avez la barre de la fraction d'éjection à 45% qui est ici. Quand vous voyez qu'une cohorte de patients insuffisants cardiaques se traduit comme ça et pas en deux bosses, c'est bien qu'il y a un continuum dans cette pathologie. Et dans la démonstration que nous faisait Marie-Pierre, où on voyait du 30, du 31, du 36% avec des analyses très très fines qui ont été faites sur CERVA-CHEF, mais vous voyez de façon bien plus globale, puisque là on passe de 10% jusqu'à soit 80%, eh bien on est sur un continuum. Donc ça veut dire que prévoir une zone grise, c'est un bon sens, parce que finalement, où se situe vraiment la limite, on ne sait pas trop. Alors, en noir, vous avez la population masculine, et en gris, vous avez la population féminine, et on le verra après, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée concerne plus les femmes que les hommes, et plus les sujets âgés, c'est lié. Sur le plan épidémiologique, dans des études qui ont une dizaine d'années, qui montrent l'augmentation de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée sur 20 ans, et qui tranche avec, dans ces populations, avec ce qui se passe. Là, vous avez en rouge l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, donc qui augmente, alors que ce n'est pas le cas de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Donc, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée est de plus en plus un problème de santé publique. Autre chose qui caractérise cette insuffisance cardiaque, c'est la fréquence des comorbidités. Donc, c'est aussi une étude de 2006. Vous voyez que quand on compare plus de 4000 malades, une population de patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection altérée et fraction d'éjection préservée, eh bien, l'âge n'est pas le même. La répartition homme-femme n'est pas la même, l'obésité est plus fréquente, l'hypertension artérielle est plus fréquente, la cardiopathie ischémique est par contre plus fréquente dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, et la fibrillation atriale est plus fréquente dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Mais on se rend compte qu'on retrouve à peu près toutes les comorbidités dans les deux colonnes, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Quand on regarde la mortalité, vous avez là deux études similaires. Vous avez donc la mortalité de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, fraction d'éjection altérée. Là aussi, vous voyez que c'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée est une maladie qui est grave. Et qui est aussi grave que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Et ce qui, en plus, caractérise l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est qu'on a une mortalité non cardiovasculaire qui est relativement importante, qui est associée avec l'âge des patients et avec l'importance des comorbidités. Là, c'est une étude avec Libersartan qui a été négative, mais où on distingue la mortalité cardiovasculaire, qui n'est donc pas changée par le Sartan, et la mortalité non cardiovasculaire, qui bien entendu n'est pas changée. Et en effet, ce qui doit nous marquer, là vous avez les mortalités dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, et on compare les années 80, le début des années 90 et la fin des années 90. Et on voit une amélioration du pronostic dans la fraction d'éjection altérée. Parce que nous avons eu des étapes majeures. Les années 80, ce sont les IEC. Donc on a découvert les IEC. Pour la petite histoire, les IEC sont des rescapés. Parce que les premiers temps, ils avaient été utilisés à des doses tellement fortes qu'on a bien cru qu'il n'allait pas passer le cap. Et heureusement, dès qu'on a baissé les doses, on s'est rendu compte qu'on pouvait les utiliser. Donc on n'est pas passé bien loin d'une catastrophe avec les IEC. Mais donc ça, c'est les débuts des années 80. et les IEC sont devenus la pierre angulaire du traitement de l'insuffisance cardiaque. Les années 90, c'est les bêta-bloquants, et ça, ça a été le grand paradoxe des bêta-bloquants, initialement contre-indiqués dans l'insuffisance cardiaque. On découvre que c'est un traitement majeur et qui réussit autant que les IEC, et donc c'est un grand progrès. Et la fin des années 90, c'est les minéralocorticoïdes, c'est l'aldactone et l'intérêt de bloquer les minéralocorticoïdes, et donc ça fait trois grands progrès qui expliquent que là, on a une amélioration dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée.